Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule avec aujourd'hui des gens exceptionnels pour un one shot parce que c'est le premier jeudi du mois. Thomas est avec nous, Flavie est avec nous, Bender est avec nous et Bobo est avec nous également, un des premiers du podcast qui revient.
Bonjour.
Ça va, Bobo?
Ça va bien.
Faire entendre ta belle voix. Bender aussi dis un petit bonjour à nos auditeurs.
Bonjour, bonjour, comme ça je dis bonjour.
Voilà, c'est très bien. Venir à ce qu'ils puissent se calibrer sur ta voix.
Et puis on a un invité. Ils sont revenus, c'est normal, c'est Pâques.
Fly, je te rappelle que ce podcast ne sera diffusé que bien dans longtemps, donc...
C'est pas Pâques.
Avec nous un invité spécial, vous avez adoré sa prestation sur Millevaux, vous adorerez sa prestation sur Lacuna, Pika Toulou est avec nous, Pika ça va, la pêche,
salut tout le monde.
Alors, t'es venu nous présenter Lacuna.
Donc, Lacuna, c'est un jeu dont je ne suis pas l'auteur.
Alors, je te vois t'éclairer avec ton iPhone, tu manques de lumière.
Pika. Non, c'est bon, ça va le faire.
Ça va le faire, ok.
Donc, Lacuna, c'est un jeu sorti assez récemment, un jeu de chez Narrativist Edition. C'est une traduction, hein, puisque l'auteur est finlandais.
D'accord.
Il s'appelle Jared Sorensen. Donc ouais. Voilà, il n'y a pas que Children of Bodom qui vient de Finlande, il y a aussi ce jeu. Et donc, c'est un jeu que j'avais découvert, moi, via le podcast de Radio Rollist.
D'accord.
Qui l'avait présenté dans le détail.
Qu'on salue au passage, on salue Cobal. Il y a eu bien nos ennuis, là, récemment, avec son petit podcast numéro 13. J'espère que ce sera rétabli bientôt.
C'est normal, c'est le numéro 13.
Bah oui, tu n'y avais même pas pensé, mais... Ouais, peut-être que c'est un poisson d'avril, en fait. Oui, je t'en prie, Pika.
Et en fait, je l'avais mis dans ma liste d'achat, mais vraiment dans les un jour, peut-être. Et il se trouve que début du mois, j'étais à la très bonne convention Bob le Rôliste.
Ouais.
Et en fait, ils offrent des jeux OMJ. Du coup, je me suis retrouvé avec ce jeu en cadeau.
Ouais.
Donc voilà, et puis avec la perspective de passer à la barreau, j'ai chopé le jeu. Comme le jeu est assez court, hein, il fait 50 pages. Donc je l'ai lu dans la journée pour vous monter un scénario des beautés.
Ouais, c'est clair. Un scénar à l'arrache parce qu'en fait, on a eu un de nos podcasters qui a pas pu venir parce qu'il avait du boulot. On devait faire un tout autre jeu, mais c'est très bien.
Bah, ça a beau être au débeauté, ça me permet en fait d'exploiter des thèmes qui me sont chers, ce qui fait quand même que je vais pouvoir produire quelque chose d'à peu près fonctionnel.
Ouais.
Enfin, vous allez en juger tout à l'heure.
Alors, tu disais que t'allais pas jouer, enfin que t'allais pas nous révéler le système au début de ce one shot.
Non, l'univers, il a dit.
Ouais, c'est un univers à secret. Alors, je peux vous parler du système, mais clairement l'univers, tout ce que je vais dire là pour le moment, c'est que c'est du fantastique contemporain.
D'accord.
Avec une bonne dose d'espionnage.
Ok. C'est...
Mulder, Scully, on y va.
Voilà.
C'est intriguant. Hein.
J'en dis carrément pas plus hein, sur l'univers. Donc le système. Je vais déjà commencer par dire que, parce que c'est marrant, parce que l'éditeur s'appelle Narrativist Edition, et je m'attendais à quelque chose de très expérimental au niveau de la forme de jeu, avec, je sais pas, des narrations partagées, des choses comme ça, et en fait, non. Mmh. C'est vraiment, dans les mécanismes, je dirais que c'est un jeu de rôle, tout ce qu'il y a de plus classique.
Ça, on disait ça dans un précédent podcast avec Thomas, c'est qu'il y a malheureusement une confusion entre narrativisme et autorité partagée. Souvent les gens se disent, tiens, parce que le jeu a été estampillé par certaines personnes narrativistes, on va se dire, tiens, l'autorité sera partagée. Mais c'est faux. Mmh. Tu peux très bien avoir un jeu narrativiste avec un maître de jeu où l'autorité n'est pas du tout partagée. Et inversement, tu peux avoir un jeu où l'autorité est partagée et c'est pas du tout narrativiste.
Mmh. Après, le jeu en lui-même, il me semble pas du tout qu'il se prétende jamais narrativiste ou quoi que ce soit. Il a pas la prétention, de toute façon, de sortir des sentiers battus au niveau des mécanismes. Au niveau de l'univers, par contre, il y a clairement une bonne dose d'originalité. Il y a un thème très casse-gueule qui, je trouve, est assez bien traité.
Dans l'univers, là.
Ouais.
On en parlera peut-être après. Du coup.
Et donc au niveau du système, ça se joue comment? Il y a des dés, il n'y a pas de dés.
Il y a des D6. Il me semble que le MJ a pas besoin de jeter de dés. Je trouve ça assez sympa. Parce que j'avais la flemme. le système, malgré quelques petites subtilités, est assez simple. En fait, ton personnage, il va être construit sur trois attributs.
Ouais.
Puissance, ça va gérer. Grosso modo, ça va gérer tout ce qui est bourriné dans le tas, interrogatoire musclé, enfin vraiment tout ce qui est les rapports de force, d'accord. Puis aussi l'athlétisme, enfin vraiment triompher des épreuves, on va dire par quand même plutôt la force brute. Il y a l'instinct qui va te permettre de faire de l'enquête, de l'investigation, de communiquer avec les PNJ. Et également d'avoir une certaine de, c'est un petit peu l'instinct de flic hein, si tu veux. C'est un
l'intuition,
jeu
l'intuition
ouais, ouais, et c'est un jeu où il y a justement t'as intérêt d'avoir la bonne intuition au bon moment parce que l'inattendu peut survenir tout le temps quoi.
Ça fait rêver, ça fait rêver.
C'est, voilà, ça, bah, oui, c'est oui, l'inattendu, moi j'adore, l'inattendu,
hein. Je pense que ce soir il y aura rien attendu hein.
Oh là là.
Et troisième attribut, c'est l'accès. En fait, l'accès, ça va déterminer ton rapport avec la compagnie. La compagnie, c'est une entreprise.
Multinationale.
Des personnages, voilà, qui embauche les personnages appartiennent tous à la compagnie. Et les rapports avec la compagnie sont suffisamment complexes pour qu'ils méritent quand même un tiers des caracs du personnage, quoi.
Bon, c'est une compagnie genre un film avec Sean Penn et Michael Douglas ou c'est une compagnie genre le FBI ?
Il a dit qu'il allait rien dire.
Mystère.
Bon bah il faut jouer alors. Moi maintenant on va donner trop de mystères.
On va bientôt jouer. Je finis un tout petit peu avec le système.
Ouais, je t'en prie.
Donc en fait ces trois attributs vont être décomposés en talents. Trois talents par attribut.
Ouais.
Donc là grosso modo ça donne un niveau de détail un petit peu plus, une sorte de zoom quoi. Donc ton personnage va pouvoir un petit peu se spécialiser dans ses talents.
Ouais.
Et donc le système se joue avec des D6. On doit en fait battre une difficulté qui est toujours de 11. Et ce qui est assez amusant en fait c'est que tu peux, quand tu rates ton jet...
Alors qu'est-ce que ça veut dire rater, faire au-dessus de 11 ou en dessous de 11 ?
Si tu fais en dessous de 11 en fait...
Tu rates ?
Tu rates.
D'accord, donc faut faire le plus haut score possible.
Tu as le droit soit tu admets que ton action est ratée, soit tu dis je recommence le jet. Mais il faut savoir que tous les scores qu'on fait à tous nos jets de dés, ils vont s'ajouter à une caractéristique qui est tes battements de cœur, tes battements par minute.
Ah d'accord, ok.
Et donc attention parce que si tu en accumules de trop... Par exemple, si t'es trop gourmand, que tu veux trop relancer tes jets de dés pour avoir accumulé les réussites, voilà, la vie de ton perso est entre tes mains en fait. Hein,
c'est énorme.
Voilà, voilà. L'acharnement peut se payer le prix fort. Quoi. Après, il y a pas mal de petites choses en plus que je vais peut-être pas détailler tout de suite. Je pense qu'on y reviendra.
Ouais.
Notamment, il y a un petit système d'expérience. L'expérience est vachement corrélée avec la hiérarchie en fait. C'est-à-dire que
dans la compagnie.
Pour gagner de l'expérience, il faut monter dans la hiérarchie et vice versa quoi.
D'accord, ok.
Voilà. Et sinon, il y a des petites choses mystérieuses. Même le système, finalement, je vais pas tout vous expliquer. Par exemple, il y a des choses qui s'appellent l'interférence. Eh ben, je vous dirai pas ce que c'est.
Eh ben voilà, on joue.
Et puis pour finir, il y a des choses qui s'appellent les techniques.
Ils teasent.
Chaque personnage maîtrise quelques techniques. Et là, c'est pareil, c'est un peu spécial, donc je vous en dirai pas plus.
D'accord, ok. Bon, allez, on y va.
On va vous en dire, allez, mais pas trop.
On va vous rentrer dans...
À bientôt. À bientôt, moi je dis au revoir aux gens.
Mais non, revoir, bon, c'est pas bien ce podcast, c'est bon, on peut y aller.
Bon, allez, bonne nuit tout le monde.
Ah, c'est parti, on joue là. Donc c'est bon là, ça y est, on a fait la partie. Waouh, éprouvant.
Oui.
On va faire un petit tour de table. Thomas, tu disais que tu avais un avis tranché à l'issue de cette partie.
Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors attends, oui, c'est un pouce.
C'est ta mousse qui est en train de se barrer. Voilà.
Ah, là, là, là. Je trouvais ce jeu vraiment pas mal parce que au niveau des fiches de personnages, nous avons des points de santé qui sont représentés par des BPM, des battements par minute. Et j'ai beaucoup aimé le concept parce que bon, ça change du point de vue classique.
Ouais.
Et que l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un jet, réussi ou pas réussi, donc on jette un certain nombre de D6, on additionne ces D6 et ça montre le coût en battements par minute que le personnage prend.
Exactement.
Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario, ben, on va voir notre rythme cardiaque s'accélérer. Voilà. Sachant que le personnage a une limite maximale, et quand c'est atteint, ben, c'est calme plat, quoi. L'encéphalogramme de la grenouille.
Pour donner un exemple concret à nos auditeurs, moi, j'étais, un personnage assez de 28 ans. Ma limite, c'était 192 battements par minute. Donc, à force de lancer des D6, ça venait augmenter mon pool. J'ai commencé à 70, c'est-à-dire le battement normal d'un homme de mon âge. Et au fur et à mesure que je lançais des D6, donc si je faisais 13, mettons que mon premier geste est plus 13, hop, de 70, on passait à 83, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin à 192, qui était ma limite. Et quand j'arrivais à 192, j'étais mort. Crise cardiaque. Donc ça, déjà, c'est vrai que c'est original parce que c'est à la fois les PV et en même temps, c'est le potentiel. C'est-à-dire ce qui te permet d'agir.
Et une autre règle que j'ai beaucoup aimé, c'est que bon, ce qu'on avait expliqué au début, c'est qu'à chaque fois qu'on doit faire un jet, il faut battre un succès de 11. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on fait 11 ou plus, on considère que le succès est réussi. Mais si jamais on fait moins, on a toujours la possibilité de refaire le jet. C'est-à-dire qu'on est là, est-ce qu'on accepte l'échec ou est-ce qu'on relance? Sachant que si on accepte l'échec, eh ben, les dés qu'on a lancés, on les additionne, ça nous fait notre nombre de battements par minute qu'on prend. Si on décide de relancer, on prend ces battements par minute dus à l'échec et on relance le dé.
C'est-à-dire que non seulement on prend l'échec en battements, mais en plus, on va prendre le succès, le futur succès peut-être en cas de relance successful.
Voilà.
Et on va les prendre
en plus.
Donc
on augmente. Donc c'est est-ce que le joueur est prêt à accepter son échec ou pas? Et j'ai trouvé aussi l'avantage dans le jeu, vu qu'on a joué en groupe, ça a permis à bout d'un moment, vu qu'il y a des joueurs qui étaient plus ou moins spécialisés, de dire attends, c'est pas à moi de faire le jet et perdre des BPM, dire, plutôt laisser un autre joueur de façon à ce qu'on crève moins vite.
Benjamin, ça avait l'air de te faire tiquer.
Ouais, je dirais que c'est plutôt dans quelle mesure on va choisir de s'enfoncer ou de pas s'enfoncer.
Ouais, plus que de réussir ou de pas réussir.
Ouais. Dans quelle mesure tu vas accepter de te pénaliser pour réussir? J'adore le concept du point de vie.
Point de vie, battement de cœur.
Ouais. Mais ça part super vite.
Voilà. Mais justement, parce qu'il y a des moments, je pense par exemple, je regarde ton personnage, qui lui donc est mort en premier, qui a fait beaucoup d'échecs et qui les a souvent refusés, qui a dit non, ouais, je suis pas d'accord, je veux pas échouer, je veux relancer mon dé. Donc là, on voit bien la prise de risque qui est, regarde, tu lui jettes des dés, tu jettes des dés parce que tu ne veux pas louper ton jet, que tu veux réussir ton action, et en contrepartie, tu t'es peut-être pris 50 pulsations d'un coup, parce que tu n'as pas voulu cet échec. C'était vraiment ça. C'est ce côté de dire qu'il y a un moment, peut-être qu'en tant que joueur, tu as dû te dire, tant pis, je tombe dans l'eau, il y a un requin qui va me bouffer une jambe, je prendrai peut-être des battements par minute, mais c'est pas grave, j'ai pas pris mes 50, j'en ai peut-être perdu que 30.
Alors, est-ce que toi, Ben, tu recommençais à refaire tes jets en te disant, comme ça, je charcle mon personnage et ça va être carrément plus rigolo de jouer avec après quand il sera bien charclé?
Non, j'ai pas vraiment. Au début, tu perds quelques jets de dés, mais ça vient pas si vite. C'est que au bout de... Finalement, c'est sur quoi? C'est sur trois actions que j'ai perdu le maximum de points. Ça te tombe dessus comme un PV, hein, si tu veux, un PV de flic. Ça, tu le vois pas venir et finalement, ça devient un peu douloureux, accumulé. J'avais 29 ans. Enfin voilà, Eric Palmer, là, il a 29 ans. Il est en super condition physique. Nous représentons en fait, je sais pas exactement ce qu'on représente encore, mais on est l'élite. Et disons que perdre tous mes points de vie par épuisement, j'ai encore un doute là.
Tu trouves ça un peu bizarre d'avoir perdu ton personnage parce qu'il a réfléchi 30 secondes à savoir quelle était la meilleure issue à prendre entre la porte A et la porte B à un moment donné.
Si j'arrêtais mon jet à ce moment-là, je perdais par exemple 11 points. Si je retentais, si je remisais, je pouvais perdre 22, 20, je pouvais perdre plus.
En fait, le truc c'est que...
Dans quelle mesure je m'enfonce?
Les battements par minute, on a oublié de préciser ça peut-être pour nos auditeurs, mais c'est que quels sont les trois, tu nous rappelles les trois caractéristiques sur la fiche de personnage, Picard?
Un personnage, il a donc trois attributs.
C'est la puissance.
La puissance, l'instinct et l'accès.
Et donc du coup, toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'on agisse à l'instinct, qu'on agisse à l'accès, qu'on agisse à la puissance, nous font gagner des battements par minute et donc nous rapprochent de la crise cardiaque.
Ouais, tout à fait.
Ça, il faut pas l'oublier parce que du coup, Bender, je vois par exemple dans le cas de Bender, il a perdu quasiment, on va dire, un quart de ses battements par minute à un moment donné en réfléchissant autour des personnes qui étaient à attendre à une caisse enregistreuse. Rappelons-nous de ce fait. C'est-à-dire qu'il a, le stress qu'il a encouru en partie était dû au fait qu'il regardait des gens qui attendaient à une caisse enregistreuse. Certes, très glauque la caisse enregistreuse, je te l'accorde, Pika, mais quand même, on peut se poser des questions.
Bah, il faut considérer...
ramener à ça, ouais, ça fait plus étrange.
Pika.
En fait, c'est aussi peut-être. Je pense quand même qu'on le sentait dans le scénario. C'est aussi parce que vous êtes dans une situation commando et même les instants calmes, comme c'est cette introduction, effectivement, qui se passe un fil d'attente d'une caisse de supermarché. Eh ben, il se trouve que quand même vos personnages, ils sont en plein stress parce qu'ils savent que ça peut basculer à tout moment, qu'ils doivent agir super vite et qu'ils doivent surtout pas faire d'erreur.
Ouais.
Donc, on peut estimer que même en ce moment-là, ils sont en gros stress. Et puis, il y a tout simplement le fait que ils sont plongés, l'endroit où ils sont plongés. Enfin, il y a un tel effort physique et mental pour y être.
Voilà, il faut rappeler pour les auditeurs que
ça influe là-dessus. Quoi.
Le décor dans lequel on est, c'est des écrans de télé, des livres sur lesquels il y a des écritures qu'on ne comprend pas, des écrans sur lesquels il y a des images qu'on ne comprend pas, des gens qui sont dans des positions bizarres, une hôtesse de caisse qui est très spécial.
Particulièrement, ouais.
Voilà, tout est bizarre et donc effectivement, c'est vrai que rien que de contempler ce décor peut avoir quelque chose de paniquant. Maintenant, je vous lèverai d'autres questions après. Flavie, t'avais envie d'intervenir sur les BPM ou pas? Parce que t'as demandé le micro tout à l'heure. Non, pas du tout?
Ok. J'ai pas demandé le micro.
Thomas, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais juste qu'on fasse un petit
tour de table sur les BPM. Bobo, tu avais peut-être quelque chose à dire?
Non, sur les BPM, rien à rajouter. Ah, c'est plus après sur la construction du scénario et la façon
de
dire.
D'accord, c'est pareil, okay. C'est sur d'autres trucs.
Alors,
que
on
vient
sur Thomas sur les BPM
choses.
Et puis on passera à la
construction. J'ai trouvé un autre truc qui était pas mal sur les BPM, c'est que, donc en fonction de l'âge, on a donc une valeur minimale. Donc en fonction du sexe, on a une valeur minimale de base de BPM. Ensuite, en fonction de l'âge, on va avoir un moment. Une valeur de BPM qui est dite favorable, qui est qu'en fait dès qu'on a atteint en fait ce compteur dans cette fourchette de score, le joueur peut dire je veux faire un jet physique, j'ai 3 en physique, je prends que 3 dés. Voilà. Il peut dire j'en prends 2, j'en prends un autre ou j'en prends 2 autres, ou j'en prends 3 autres. Ouais. Et là cet avantage c'est que ça permet d'être sûr qu'il va réussir son succès. Mais en même temps, il prend le risque. En rajoutant un dé, je peux perdre 6 BPM en plus.
Tout à fait.
Donc, c'est bien calculer le risque que je prends, qui est que, je vais être sûr de réussir mon action, parce que là, c'est important que je réussisse. Quand je veux dire que, en tant que joueur, c'est important. Mais est-ce que mon personnage va être prêt à réussir à supporter le jet que je vais lui faire? Parce que quand on jette 5 dés 6, on arrive à 30 BPM, quoi.
Toi,
ça fait mal.
J'ai vraiment l'impression que ce qui t'a plu dans ce système de BPM, Thomas, si on prend les deux trucs que t'as signalé jusqu'à maintenant, c'est le côté choix. C'est-à-dire que le BPM nous impose de faire un choix. Est-ce que je réussis mon action? Et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier de mon personnage pour réussir mon action?
Je dirais que le BPM est
un bon
mécanisme, en fait, de jeu, qui permet de créer du jeu.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a cette approche qu'on enlève les points de vie, les fameux points de vie, j'ai 12 PV, non, on va partir en BPM, donc qui va très bien avec l'univers. Et ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement, au niveau de la mécanique, dès que tu vas faire un choix, dès que tu vas faire un jet, tu vas dire attention, ça va me faire monter mes BPM. Donc vraiment, le mécanisme des BPM est moteur dans le jeu, quoi. Sur les choix que tu vas faire, sur plein de choses.
Ok, Flavie, sur
les
BPM.
Je pense aussi que sur les BPM, c'est un bon timer. C'est un bon timer, les BPM, dans un scénario. Parce que si tu veux ne pas crever, tu dois bien calculer combien tu veux faire pour pouvoir réussir ta mission.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est forcément, t'es obligé d'avoir des scénarios d'une certaine durée. Parce que si tu fais sans arrêt des jets de dés, tu l'as dans le cul, quoi.
Thomas,
Je veux juste revenir sur une chose. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, que les BPM, on a une valeur nominale et c'est quoi? Au début du prochain scénario, que ces BPM vont redescendre. Donc tout le long de la partie, ils vont faire qu'augmenter. Ils vont jamais revenir à la valeur initiale.
À tel point, soit Pika, que tu disais tout à l'heure que c'était carrément du one shot parce que finalement, il n'y a pas moyen de ne pas mourir finalement. C'est trop dur, Pika.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que le système était favorable à pour faire des one shot assez mortels où justement, en fait, si on prend un parti pris que j'ai pris. C'est-à-dire de dire, on va faire tout le scénar, ça va être une mission, et en fait, les personnages ne vont pas s'éjecter, ou alors ils vont essayer de s'éjecter de la mission au dernier moment.
Oui.
Et ça, je l'ai fait, entre guillemets, un peu en trichant, c'est-à-dire que je vous ai très peu parlé de l'éjection, de dire qu'on pouvait s'éjecter délibérément. Il n'y a que vers la fin que j'ai commencé à en parler, parce que si on s'éjectait de la mission... c'était difficile de reprendre, il y avait une grosse cassure de rythme, parce que grosso modo, le personnage s'éjecte de la mission, puis après il prend le temps qu'il faut pour récupérer, et puis après on repart peinard et tout. Mmh. Donc si tu joues en campagne, tu peux faire comme ça, en fait, quand ça commence à aller trop mal en BPM, tu t'éjectes, Si t'as assez confiance en les autres, t'essaies de faire une éjection groupée, c'est mieux. D'accord. Et s'il y a une ambiance un petit peu de suspicion, bah ça se trouve, si tu t'éjectes, bah tes petits camarades, ils vont peut-être rester
donc
là-bas.
Tu veux dire que les BPM, c'est toi qui es parti dans l'option, on va faire un one shot, donc je vais les mettre direct dans l'ultra-violence du BPM, mais en campagne, on peut temporiser la chose.
Ah ouais, je pense.
C'est important pour nos éditeurs.
Le système explique pas trop les utilisations qui sont possibles, donc j'ai fait un peu mon choix moi-même, quoi.
D'accord, ouais.
Mais c'est ce choix-là que j'ai fait, quoi.
Thomas?
Ouais, la question, c'est ça, c'est que dans le jeu, lui, parle d'une possibilité de faire une campagne.
Le jeu le dit ou pas?
En fait, le jeu donne même pas de définition du jeu de rôle. Il parle à aucun moment de ce qu'est un one-shot, ce qu'est une campagne, donc il ne propose pas le choix, en fait.
D'accord, il n'a pas ce propos. Parce que c'est vrai que sinon, dans ton idée, comme on disait avec le campagne, dès qu'on peut s'éjecter, on peut faire un scénar, c'est parti, les joueurs jouent, et dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont à BPM limite, on s'éjecte, on arrête, et on reprendra la suite plus tard. Ouais.
Là, à ce moment, je pense que le MJ, s'il veut que le BPM garde un intérêt, il va jouer sur le fait que peut-être que tout le monde va pas vouloir s'éjecter s'il y a des dissensions au sein du groupe. C'est ah machin, t'es blessé, vas-y éjecte-toi, on va faire le reste sans toi, pas de souci. Ou alors il va décréter que si les gens font des éjections groupées, il va décréter que il se passe quelque chose en leur absence, quoi.
Je suis en train de me dire un truc, c'est que les auditeurs ne doivent pas savoir ce que c'est que l'éjection. On n'a pas dit qu'on était dans un programme virtuel. Et donc, c'est un petit peu comme dans Matrix. On voyage dans une espèce de sphère virtuelle qui représente, alors là, bouchez-vous les oreilles si vous voulez faire la campagne, hein, une forme d'inconscient collective. En tout cas, c'est...
Dans le jeu, c'est pas virtuel. Hein, c'est, d'accord. C'est tout ce qu'il y a de plus réel. Quoi.
D'accord, ok. Ouais, d'accord. Bon, voilà. C'est pas un spoiler. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'éjection, ça va nous permettre de sortir du trip et de restaurer ses battements par minute.
Ouais.
Voilà.
Alors, en fait, si tu veux bien, Romaric,
Pika. Et après, on passe à Flavie. Il y avait une question. À moins que.
Il y a un moment, un autre, où de toute façon, je vais vous débriefer sur l'univers, quoi. D'ailleurs, ça va un peu spoiler, sûrement, mais ce sera plus simple après d'avoir vos retours sur expérience. Donc, soit on le fait maintenant, enfin, après la réaction de Flavie.
Ouais.
Soit on le fait à la toute fin, ou à la toute fin, on explique un petit peu les mystères.
J'aurais juste une réponse à Thomas à faire avant. Et après, ouais. Flavie, tu disais.
Alors, moi, c'est. De loin, là, avec ce qu'on a fait, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont pas expliquées dans ce JDR. Et notamment, j'ai l'impression que les BPM, alors c'est une bonne idée, mais du coup, à la fin, ils servent un peu à tout. Notamment, comment gérer les combats. Ben, on s'est mis, parce qu'on savait pas trop, à utiliser les BPM, genre tu te ramasses un coup, on t'enlève des BPM.
Est-ce que ça, c'est dans le système de jeu, Pika? Ou est-ce que c'est toi qui a...
Non, c'est pas dans la base. Là, j'ai un petit peu improvisé, pris de court.
Okay.
Puisqu'en fait, dans la base, la seule chose qui peut se passer en baston, c'est que tu perds des points d'attribut, quoi.
D'accord.
Cela dit, mais je me rappelais plus tellement dans le feu d'action, mais ce qui se passe, c'est que si tu tombes à zéro en attribut, ton perso, il tombe dans le coma.
Dans tous les cas. D'accord. Donc, il y a bien une réponse du système. C'est-à-dire que tu perds un point d'attribut.
Une réponse du système.
Et tu vois, les BPM sont tellement forts dans le système qu'au final, on est tenté de les utiliser pour un peu tout, quoi.
Si on fait les blessures classiques, je pense que ça se résout bien.
Ouais, c'est vrai. Mais comme on l'avait pas fait, du coup, je me posais la question. D'accord.
Moi, je pense qu'il y a un problème des BPM, et c'est contrairement à toi, Thomas, je trouve que ça crée pas du jeu, au contraire. Ça fige les actions.
Ça fige aucune action.
T'as absolument pas envie de faire des actions. Moi, je suis désolé, dans le scénar, j'avais pas envie. Bobo.
Ça fige parce que justement on n'était pas dans cette logique de fonctionnement de se dire dès qu'on va être court on arrête et on reprendra plus tard. Là il fallait qu'on finisse le scénar parce qu'il avait une fin.
D'accord.
Voilà. Donc je pense que en jouant comme tu disais Pika, c'est-à-dire quand on commence à être un peu court, on sort et on reprend après.
Ouais.
Ça permet de pas avoir ce faux rythme
côté figé.
De se dire je vais pas craquer mes actions maintenant.
D'accord.
Ce qu'on n'a pas dit. Je pense pas que ce soit de la base, c'est toi qui as dû rajouter ça, Pika. Le scénario était chronométré, donc on savait à quel moment il y avait la fin et on avait peut-être tendance à se dire reste une heure de jeu, je vais pas me craquer
le chronomètre,
tout de suite.
De base, les BPM chronométraient en fait. Ouais, mais la réponse de Bobo est très bonne. Tu viens de répondre à ma question, moi, personnellement.
Thomas, moi, je trouve que ça crée du jeu parce que éventuellement, peut permettre d'éviter que des joueurs fassent des actions entre guillemets débiles. C'est le gars qui dit je vais aller faire le con, je vais voler la canne à pêche du capitaine. Je pense que le gars dit attention, si tu le fais, tu prends des risques.
Je suis pas du tout d'accord avec toi pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas le joueur qui décide de faire un jet de dé ou pas, c'est encore une fois le maître de jeu qui te l'impose. Et du coup, tu peux très bien avoir un des joueurs qui font des trucs débiles. Ben,
on a choisi d'appliquer certains jets pour simuler l'intuition.
C'est toujours Pika qui vous a demandé en termes de jeter un jet ou pas. Je prends un exemple tout bête. Je prends l'exemple de Flavie. Flavie, elle s'est fait flinguer à la fin par le choix de maître de jeu de Pika, de décider de lui faire faire un jet en communication pour parler à la fille. Je cite Pika, je l'ai noté sur ma fiche. Pika a dit texto, je suis vache, mais il faut que tu fasses un jet de communication. Okay. Ce qui veut bien dire que c'est au maître de jeu la responsabilité de faire un jet ou pas, c'est le maître de jeu en dernière analyse qui le dit.
C'est tout à fait vrai, Romaric, mais je pense que c'est valable pour la plupart des jeux de rôle.
Thomas.
Moi j'aimerais bien voir si c'est pas le système qui dit là il y a un conflit qui doit être fait, c'est forcément un jet. Je suis sûr que c'est marqué dans le système et que c'est pas le MJ qui le décide. Honnêtement, franchement, en tant que joueur, j'ai dit tiens, il y a un mec là, je vais lui mettre un bourre-pif. Ça me semble naturel.
Oui, c'est normal, c'est un conflit. Je suis d'accord.
Voilà, mais je suis sûr que dans le système il dit et donc, en tel cas, c'est pas le MJ qui décide.
On revient à cette histoire de canne à pêche. En quoi est-ce qu'il y a un conflit s'il y a un joueur qui décide d'aller prendre une canne à pêche?
Alors, quand je parle de prendre, éventuellement, voler une canne à pêche. Si c'est ramasser une canne à pêche par terre, tu fais pas de jet.
À mon avis, il y a un souci là, mais bon, on pourra y revenir peut-être après. Tu voulais passer à la description de l'univers ou il y avait d'autres remarques sur les BPM? Pika, description de l'univers.
On va décrire l'univers parce que je pense que vos retours d'expérience vont être beaucoup plus clairs pour les auditeurs. Après, oui. En plus, je pense que vous-même vous l'attendez avec un peu d'impatience parce que pendant la partie, j'ai dévoilé assez peu de choses. Hein. Alors, oui. Le plus simple pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe dans la Kuna, c'est que je commence par des références cinématographiques qui me paraissent assez évidentes. C'est tout d'abord The Cell.
Oui.
Avec Jennifer Lopez.
C'est la référence.
Moi, je ne l'ai jamais vu.
J'ai vraiment aimé. The Cell, en première ligne. Inception aussi.
Ouais, d'accord.
Matrix un petit peu, mais vraiment, vraiment The Cell et Inception en première ligne. Une petite louche de Dark City éventuellement.
Existence.
Existence. D'ailleurs, j'ai pu penser dans le feu d'action, mais en fait, je voulais vous mettre des PNJ un peu bots qui avaient que 2-3 phrases dans leur répertoire pour faire une petite référence à Existence.
D'accord, ok. Donc il y a quand même une histoire de virtuel réel.
Ouais. Et on est aussi dans un univers à la Kafka et grosse référence à Kafka. Hein. Et puis, je pense que ça fait référence à beaucoup de films d'espionnage comme Inception. C'est pour ça que, à la limite. J'aurais pas m'avancer trop parce que j'ai regardé dans les crédits, ils citent aucune référence.
Ouais.
Mais pour moi, j'arrête sur une scène, l'auteur. Après, je sais pas à quelle est la date à laquelle il a écrit son jeu.
Je pense que
ça me surprendrait qu'il se soit pas inspiré de Inception.
Ouais, moi je crois que
c'est vraiment, la ressemblance est vraiment troublante.
2006. La édition.
Ah, 2006, ok, donc j'ai rien dit. Parce que Inception n'était pas encore sorti. Ah non, je suis sûr qu'en 2006, c'était pas
sorti. Ben. Attention Ben, tu parles sans micro, on t'entend pas. En 2006, Inception n'était pas encore sorti, Ben.
Avec DiCaprio ?
Ouais. Ah non, mais c'est très récent. C'est très récent.
C'est 2009.
Voilà. Donc, oui, je crois que c'est ça.
Donc, pour synthétiser, parce que ça dit pas forcément grand-chose à tout le monde, vos personnages font partie d'une société secrète qui s'appelle La Compagnie, qui est en réalité une agence gouvernementale qui envoie vos personnages en fait dans l'inconscient collectif de l'humanité. Hein. C'est rien moins que ça. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai
compris. Donc c'est grosso modo une espèce de rêve commun qui est partagé. Alors là, je spoil à fond hein, le jeu. Hein. Ouais.
Je vais mettre un petit jingle spoiler.
une réalité inconsciente qui est partagée par tous les rêveurs du monde entier. Et en fait, là-bas, vous êtes censé retrouver les projections oniriques, généralement de serial killers, de méchants qu'il faut neutraliser. Sauf qu'il y a une énorme ambiance de paranoïa. La hiérarchie vous cache un maximum d'informations, c'est trop sensible, c'est de la bombe atomique quand même, hein, ce qu'il y a derrière ça. La compagnie, même à ses propres agents, ne veut pas dire de toute la vérité, parce que c'est vraiment une révélation extrêmement sensible, et on veut pas que le monde sache qu'on peut se balader dans l'inconscient collectif de l'humanité, et puis tout casser à volonté, quoi. Et c'est cette ambiance de suspicion qui règne vraiment quand on lit l'univers et que j'ai essayé de retranscrire dans la partie test.
C'était bien fait ça.
Thomas. Donc en fait, en termes de jeu, les joueurs, leur but, ça va être de découvrir ces vérités.
Alors oui, tiens.
C'est pas le but des agents. Hein. Normalement, les personnages sont censés rester le plus
ignorants possible. Pas des joueurs, pas des personnages, hein, des joueurs.
Ouais, je pense que c'est ouais, effectivement. Après, le rôle du joueur n'est pas évoqué hein, dans la base. Hein.
Ça a l'air d'être vraiment une drôle de base.
C'est-à-dire hein. que bah, la, de toute façon, la base estime que tu n'es pas là pour savoir la vérité.
Flavie.
Ouais, et donc, la base suggère bien que les joueurs n'ont pas à se poser de questions.
Alors, moi, il y a ce que tu dis là sur les joueurs, ça m'amène à une question que je me suis posée sur le but des joueurs. C'est-à-dire que quand on a commencé le jeu, moi, personnellement, sur la première scène, je me suis sentie un peu frustrée parce que je ne savais pas quoi faire, j'avais pas de but. C'est-à-dire, quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je fais là ? Je sais que je devais voir s'il y avait... Heureusement, tu m'avais donné un petit truc à côté. Je devais chercher s'il y avait des trucs malveillants. Mais où vais-je ? Que suis-je ? Dans quelle étagère ? Enfin,
au final, il y avait Thomas qui était là-dessus.
Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Et tu sais que tu nous as dit au début du podcast qu'il y avait un truc de mentor. Alors peut-être que c'est pour ça que du coup, je ne savais pas trop ce que je devais faire ni quelle mission faire. Mais...
Je sais pas. Moi, je partage pas cette sensation-là, Fly, parce qu'il y avait Thomas qui était vraiment très moteur, je trouvais, à ce niveau-là. Bobo, tu voulais intervenir?
Ouais, non, en fait, sur la première scène, je pense qu'on était tous d'accord, on était dans la, enfin, on sentait la même chose oui. que Flavie, parce qu'on est projeté dans la scène, on sait pas trop ce qu'on fait, on n'avait pas le but de la mission, donc en fait, c'est normal, enfin, on était tous paumés. C'est à la deuxième scène, en fait, que, le but de la mission est arrivé. Donc ouais, ça c'est normal, on l'a tous ressenti.
On l'a tous ressenti, ouais.
Je pense pas que moi c'est un défaut du jeu. J'ai une réponse là-dessus, c'est pour ça que je regarde Picard. À mon avis, cette frustration, Picard l'a voulu. Parce que dans le jeu, alors je sais pas si ça fait partie du jeu, mais je sais que moi j'avais plus d'informations que vous, et nu me voir à part, il m'explique de toute façon, il y a quand on immerge en fait les personnages dans le monde de Lacuna, donc dans Blue City, on explique qu'il y arrive régulièrement un phénomène d'amnésie où bah des fois il y a des agents, ils se retrouvent là-dedans, mais ils savent pas vraiment qui ils sont et qu'est-ce qu'ils foutent là. Et donc je pense qu'en fait là ça a été vraiment ce côté que Picard a voulu faire ressentir aux joueurs. Donc je pense que ta frustration, elle était présente parce qu'elle était voulue.
Ouais, Picard, tu confirmes ?
Alors je confirme, je vais préciser que ça c'est pas dans la base.
C'est dans la base comme ça. C'est
non, c'est pas dans la base. Cette histoire d'amnésie.
D'accord.
Alors dans la base il y a quelque chose, il y a des niveaux d'accréditation. C'est-à-dire que le bouquin d'ailleurs il est divisé en plusieurs parties selon l'accréditation que tu vas avoir, blanche, bleue, indigo, noir. Il y a un autre niveau d'accréditation mais il n'existe pas, j'en parlerai pas. Dans le podcast de Radio Rollis, ils expliquent que c'est une référence au jeu de rôle Paranoia.
D'accord.
Oui, voilà le côté très très administratif.
Voilà. Et en fait, selon le niveau d'accréditation de ton personnage en tant que joueur, tu as le droit de lire seulement certaines sections. Et en fait, normalement, un personnage débutant, il a niveau blanc. Et en fait, je suis quand même censé donner quelques informations, parler de la compagnie. Je crois que même pas qu'on explique tellement qu'il y a un inconscient collectif. C'est juste grosso modo, les joueurs doivent au moins savoir que, enfin, pas tellement plus en fait. Hein. Ils savent qu'ils se projettent dans un monde virtuel et que leurs chefs connaissent la vérité et qu'eux ils sauront quand ils seront plus grands.
Quoi. D'accord.
Donc j'ai un tout petit peu forcé le trait parce que ça m'intéressait justement cette histoire d'ignorance sélective. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé qu'il y aurait un personnage avec un peu d'expérience. Du coup, il serait supérieur, il aura un meilleur niveau d'accréditation. Donc là, ça a été Thomas.
Ouais.
Et qui aurait un peu plus d'infos.
Hein, la dernière fois, il jouait Magdalena dans Mildew, c'est pareil. Quoi. C'est toujours Thomas que tu choisis pour être
l'assistant
du MJ. Vous l'avez élu.
C'est pas au hasard du tout. Tu t'es dit, ouais, je serai le commandant, je vais diriger la troupe. Et comme ça, en termes de commandant, t'es une chèvre. Faut le dire.
La prochaine fois, je te le repasserai de nouveau, Bobo. Je sais que t'aimes bien ça.
Qu'est-ce que tu voulais dire?
Ah, c'est un bon chef, alors, Bobo.
Je veux dire que...
Mesurer.
Ce que j'ai aimé, ce que ça a dit Pika, c'est qu'apparemment, la base est prévue pas que pour le MJ, mais prévue aussi pour les joueurs. C'est-à-dire que le créateur a dit, bah, voilà, moi, je fais un bouquin pour tout le monde. Et que, d'un point de vue d'accréditation, donc je suppose que le MJ a l'accréditation la plus haute, donc peut lire des pages que des joueurs ne liront peut-être jamais. Mais sinon, le livre.
Je pense que j'avais pas l'accréditation la plus haute parce que je pense qu'il manquait des pages pour que je comprenne tout.
Alors, soyons clairs, la base, elle est monstre tripé, quoi.
Oui, moi j'ai feuilleté un peu, c'est très très particulier.
C'est incroyable. Voilà.
Mais j'aime bien en tout cas cet aspect de créateur qui dit je vais faire un livre pour tout le monde.
Un Bobo. Petit livret.
Ça te fait...
Juste pour réagir à ce que tu disais sur la base, effectivement, moi, ce qui m'a bien fait marrer, c'est pour le côté un petit peu, on censure, il y a des choses que vous devez pas savoir.
Ouais.
Il y a des paragraphes qui sont
écrits à l'envers.
Qui sont, ah ça, j'ai pas vu, mais c'est surtout les coups de marqueur noir.
Ouais.
Genre non, ça vous pouvez pas le lire.
Tu sais à quoi ça me fait penser beaucoup.
Il y a de la censure. Ouais.
Ça me fait penser à Rétro-Futur.
Oui, un peu.
Dans le côté basse tripée avec des.
Bah, et pas que dans la typo de la base. Il y a aussi le côté, là, on en a pas parlé, le pool de points qui était mis sur la table, qui est l'interférence, où au fur et à mesure des conflits des joueurs avec le monde ou des joueurs entre eux, on venait un petit peu le remplir. Moi, c'est vrai que ça me faisait penser à la substance mort de Rétro-Futur.
Alors,
tu pourras nous donner un peu plus d'infos sur, sur ce mécanisme.
J'aimerais bien. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait l'interférence. Donc, c'était des marqueurs qui étaient placés, que tu plaçais en fait au milieu de la table dans un récipient en fonction de certaines conditions. On n'a pas d'ailleurs tout saisi les conditions. J'ai l'impression que c'était quand il y avait deux joueurs qui s'opposaient, il y avait deux marqueurs qui arrivaient.
Il y a aussi quand il y avait un échec.
Un échec sur un dé.
Il y avait un marqueur qui arrivait pour un échec. Quoi d'autre, Pika?
Il y avait, dans mon souvenir, je crois que en fait, dès qu'il y avait une discordance dans le groupe, l'interférence, on avait à mort.
D'accord, ok. Une discordance dans le groupe, tu avais de l'interférence. Donc en fait, en gros, j'avais l'impression que c'était quand il y avait des conflits entre les joueurs ou des échecs de joueurs.
Alors,
quand
je vais récapituler.
Quelque chose ne se passait pas lorsque ça se, lorsqu'on, comme on le voulait. Oui, Pika.
Ouais, effectivement. Donc, si un joueur ratait son jet, si deux personnages rentraient en conflit, alors on mettait des points dès qu'il y avait un conflit, et surtout si les personnages commençaient à faire des conflits en utilisant les dés, en fait, des jets de dés en opposition. Là, il y avait encore plus d'interférences. Il y avait des conflits si un joueur utilisait une technique. Je pense que ça, les techniques, on les a à peine effleurées. Il y avait aussi une interférence si un PJ remettait en cause sa hiérarchie. Je pense que Mathieu a géré ça aussi.
Il y en a eu.
Et pour finir, il y avait de l'interférence si on rencontrait une araignée, ce qui a été le cas.
Donc Mathieu, pour les auditeurs, c'était l'assistant de Pika. C'était un gars qui assistait au scénario et qui aidait Pika à s'occuper de ses petites pièces.
Ouais, en fait, normalement, c'est OMJ de gérer les interférences.
Voilà.
Mais je trouvais ça plus intéressant de laisser un joueur gérer ça. Surtout que j'imaginais au début de la partie, avant qu'on comprenne vraiment ce qui se passait, je pense que les autres joueurs devaient se demander ce que Mathieu faisait, rajouter des jetons.
C'était bien ça.
Et normalement, à chaque fois qu'il rajoutait un point d'interférence, ça avait des conséquences sur l'univers, quoi.
Moi, je trouve ça génial de se poser des questions sur les pourquoi est-ce que ça augmente, comment ça augmente, etc. Ça me rappelle en fait un projet qu'on avait eu avec Frédéric Sintès à un moment donné, c'est de créer un jeu dans lequel les joueurs ne connaissent pas les règles et le but des joueurs, c'est de trouver les règles du jeu, en fait.
Bah, il y a un peu
et
de
y a
ça.
Il y a un côté
hein.
comme ça et je trouve que ça augmente au niveau de la paranoïa, c'est-à-dire que les joueurs autour se posent des questions sur l'univers en même temps qu'ils se posent des questions sur le système, en même temps qu'ils se posent des questions sur les gens qui sont autour de la table. Et ça, côté synesthésie, on y est à mort. Quoi. C'est-à-dire il y a le côté, je ressens une sensation qui est très proche de celle de mon personnage, à savoir cette paranoïa, le monde qui me ment, etc., le malin génie. Thomas, tu voulais...
J'avais une question. Est-ce qu'il y a une explication à l'interférence? L'impression que j'en ai, c'est que dès qu'il y a une discorde, on va dire, des agents, l'interférence arrive. Alors, est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que ça reste un mystère du jeu?
Moi, on en revient au niveau d'accréditation. Okay, voilà, j'ai pas eu accès aux pages qui expliquaient.
C'est
la même chose dans le film Inception. C'est assez marrant. Il y a la même chose.
J'ai mon idée. C'est que si vraiment on est dans l'inconscient collectif, le nôtre compte aussi. Et donc, je pense que pour être puissant dans cet inconscient collectif, il faut que tous on fasse des actions qui aillent dans le même sens. Mm-hmm. Et le fait de se répandre dans différentes directions et dans différentes intentions, je pense que ça crée un espèce de bug dans l'inconscient collectif qui fait que cette interférence intervient.
Et en fait, ils expliquent que les meilleurs agents, c'est des pros de la méditation transcendantale. C'est des gens ultra zen.
Ultra zen, ouais.
Dans un monde, on te demande le formulaire B72, étage A44.
Vous avez
merci l'administration.
Doc Gineco, lui, il a l'accréditation maximale.
C'est le meilleur agent infiltré.
Meilleur agent infiltré. Bobo, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais rebondir en fait sur un truc que tu as dit, Thomas. Je pense pas qu'on ait vraiment eu la réponse. On joue des agents, on nous cache plein de trucs, on est là pour faire un petit peu le ménage, récupérer. Mais donc l'agence, a priori, enfin la compagnie ment. Est-ce que quelque part dans les niveaux d'accréditation supérieure, il y a quelque chose qui laisse aller les joueurs, vous allez commencer à vous poser des questions sur l'agence et peut-être à la remettre en cause. C'est pas du tout envisagé.
Non, en fait, il y a aucun scénario dans la base. Il n'y a pas de scénario et il n'y a pas du tout. Il y a vraiment, on n'explique pas le rôle des joueurs. Il n'y a même pas un paragraphe qui va expliquer quels sont les thèmes, quel était l'intention. Il n'y a pas de note d'intention de l'auteur. C'est juste que quand tu lis la base, déjà même en tant que MJ, tu sens qu'on te cache des trucs sur la compagnie. Donc tu comprends que ton rôle en tant que MJ, c'est d'amener les joueurs vers cette
interrogation. Il y a un côté patient 13 là, non ouais. Comme tu disais, il y a un petit côté
ouais, patient 13. Dans Patient 13, sans vouloir spoiler, bien en fait, le MJ ne reçoit peut-être pas 100% des informations dont il pense avoir besoin. Quoi.
Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ?
Sur le fait qu'il n'y ait pas de scénario, là je sais que bon, tu as utilisé une méthode particulière pour créer le scénar. Maintenant, toi qui as eu le bouquin dans les mains, la base ne t'a pas donné d'inspiration pour créer le scénario? Parce qu'en fait, je ne vois pas comment le jeu, dire tout seul, là, juste avec le système qu'on a eu, pour moi, tout seul, tu ne peux pas créer le scénario. C'est-à-dire, je ne vois pas les mécanismes qui permettent que le scénario se mette en place tout seul. Donc je vois pas comment
dans le background tu veux dire
Thomas
sans même parler de background, je veux dire que quelles sont les techniques Thomas. De la base qui permettent de dire au MJ ben voilà comment on crée un scénar.
Ben, toi t'as un jeu de rôle comme ça, tu t'es capable de faire un scénario direct avec? Oui. Prends ton micro.
Là tout de suite non, parce qu'effectivement les sources d'inspiration guident. À l'élaboration.
Donc a priori tu peux faire un scénar.
Mais il manque des mécanismes de jeu sur les enjeux, sur les antagonistes par exemple, quoi pas faire.
Ah oui.
Quelles sont les règles?
Ah oui.
Voilà.
Ça te manquerait peut-être.
Non, moi c'est surtout que là, moi j'ai vu les scénars qu'on peut faire, mais quelle a été la démarche de l'auteur, dire que toi en tant que MJ Pika qui a lu le bouquin, qu'est-ce qui t'a permis de dire bah voilà, je vais faire des scénars comme ça, parce que s'il y a même pas de scénar d'exemple, je vois pas qu'est-ce qui a pu t'aider.
Je veux que pour absolument qu'on soit très clair avec nos auditeurs, la manière dont on a fait le scénar, je trouvais assez intéressante, c'est-à-dire que Pika nous a distribué des petits papiers en début de scénario autour de la table, chaque joueur en a reçu un et on a inscrit un lieu et un personnage, enfin une rencontre, voilà, un lieu et une rencontre. Donc chacun avait mis par exemple un hôpital, moi j'avais mis un zeppelin qui a intervenu dans le jeu, etc. Puis au passage, Pika piochait en fait, puis à chaque fois il disait tiens là le prochain rêve, parce que en fait c'est comme ça que ça marche, hein, le prochain rêve tiens ce sera dans un zeppelin. Il le tirait au hasard parmi les choix qu'on avait donnés. Donc pour lui ça lui évitait d'avoir à créer des décors et à créer des rencontres. Parce que du coup, on avait prévu un certain nombre de rencontres possibles.
Maintenant, quels sont les vrais mécanismes du jeu ?
Cette méthodologie, j'approuve entièrement et j'adore. C'est une technique que je vais réutiliser largement. Ouais, parce que je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est ludique. Voilà. Ça sollicite l'imagination.
Du coup, tu vois, ça enlève aussi une partie de l'autorité du MJ de faire ça. Parce que du coup, il ne peut pas choisir dans quel décor ses joueurs vont aller.
Je trouve ça guide l'imaginaire. Ça me convient parfaitement.
D'accord.
Une petite piste, un petit canevas en plus, un tremplin sur lequel rebondir.
C'est bien, hein ? Non, c'est vachement bien, je suis d'accord avec toi Ben. Flavie ?
Au niveau de la création des scénars, je suis désolée de revenir là-dessus, tu avais parlé des mentors et tu disais que c'est aussi pour ça que du coup le scénario s'était pas mis en place comme il aurait pu le faire. Alors c'est quoi les mentors exactement ?
Ah ouais, il faudrait que tu reviennes sur ces mentors effectivement.
Alors je vais revenir aux mentors et après je vais enchaîner sur comment j'ai fait pour imaginer un scénario à partir de la base. Alors effectivement... Okay. En fait, les mentors, je les ai un peu utilisés. C'est-à-dire que finalement, j'ai transposé le rôle du mentor qui est normalement dévolu à des PNJ. C'est-à-dire que chaque PNJ, en fait, a un mentor qui est censé l'encadrer. Alors, faut noter que certains mentors sont morts ou disparus. Ouais. Et en fait, ce rôle-là, je l'ai calqué, en fait, sur le personnage de Thomas, on avait décrété que c'était votre supérieur.
Ouais.
Et du coup, c'était lui qui avait les informations que d'habitude les mentors transmettaient. Et puis également, j'ai inventé ce PNJ médecin-chef, hein, qui vous assiste lors du réveil et qui, en fait, entre chaque rêve,
nous
vous briefait un petit peu plus, tout en gardant quand même un maximum d'informations secrètes.
Oui.
Donc voilà, c'était ça le rôle qu'apportaient les mentors. En termes système, les mentors étaient censés vous enseigner des techniques. Là, en fait, comme j'avais zappé les mentors, la technique qu'ils vous donnaient, en fait, je vous ai donné une technique en plus gratuite, quoi.
D'accord, ok. Ouais.
Pour que vous ayez deux techniques.
Donc, en fait,
Et voilà, sinon les mentors, en fait, c'est, je pense que c'est des gens, souvent, parce que plus tu progresses dans la hiérarchie aussi, plus tu te retrouves en bisbille avec la hiérarchie.
D'accord.
Et okay. Du coup, les mentors, c'est aussi des fois des gens qui allaient soit vous manipuler pour arriver à leur propre fin, ou soit essayer de vous ouvrir les yeux sur la réalité.
Ok.
Et donc, pour finir mon petit speech sur la construction du scénario, bon, je pense honnêtement qu'un MJ débutant risque d'avoir du mal avec cette base. Je crois même d'ailleurs
un gars qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle,
ouais,
par exemple.
Ah,
prend
c'est
la base.
Pour expérimenter. Ouais.
Je crois d'ailleurs que la base des conseils, parce qu'ils disent, par exemple, si vous ne savez pas c'est quoi le jeu de rôle, il vaudrait peut-être mieux pas commencer par celui-là.
D'accord.
Ben, si, faut un peu de vécu pour se lancer là-dedans, quoi.
Moi, je pense aussi, hein. Le principe des. Oui, je pense, oui.
Alors là, en termes de contexte pour construire mon scénario.
Ouais.
Je tiens juste à dire que, en fait, j'ai juste lu la base cet après-midi, quoi.
D'accord. Ouais. Oui, non.
C'est... Et j'ai imaginé mon scénario dans la foulée. Donc j'avais peu de temps pour imaginer un scénario.
Sur la base, on peut voir que c'est écrit première partie, la création du mystère et la fille de Blue City. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce livre soit une première partie.
Ouais, effectivement. Donc, est-ce que c'est du faux teasing? Parce qu'il y a tellement de mensonges dans ce jeu. Est-ce que ça se trouve, il n'y a peut-être jamais
de
Lacuna 2, quoi.
Ouais, d'accord, okay.
J'en sais rien.
C'est le genre de la
maison. Et bon, surtout pour dire, en fait, moi, c'était un thème, le thème des voyages oniriques. Les références à The Cell, Inception, les réalités virtuelles, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et ça faisait longtemps que j'avais mon trip personnel de faire, peut-être seulement un one shot, mais de faire un jeu de rôle à Inception. Et si tu veux, Lacuna, il a répondu en plein à mes attentes.
Ah oui, toi, t'en es satisfait.
Ça tombait bien parce que moi j'avais une idée comme ça de jeu qui me trottait par la tête.
C'est vrai qu'on t'a.
Clairement, j'avais pas le temps de concevoir un propre système. J'avais fait une ébauche, mais j'en étais pas satisfait. C'était une ébauche où les personnages avaient beaucoup plus de pouvoir pour modifier la réalité.
Donc Pika, toi, en tout cas, ce que tu te dis, c'est que finalement le jeu est tombé au bon moment et donc du coup,
ouais,
t'as plus aucun mal à trouver à décrire un scénario, quoi.
Après, j'ai quand même fait quand même beaucoup de rénovations majeures pour faire mon scénar, notamment en décrétant effectivement que c'était les joueurs qu'elle imaginait au départ, qu'elles allaient être les rencontres, qu'elles allaient être les lieux visités. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été tirées au hasard.
Tout à fait.
Ça, c'est pas du tout suggéré par la base. Parce que là, je donne quand même un pouvoir créatif aux joueurs qui est inhabituel pour un jeu de rôle standard.
D'accord.
Et qui est pas du tout conseillé par la base.
Parce que je pense que dans l'idée de paranoïa, le maître de jeu est peut-être conseillé. Flavie, tu
Mais
veux
en fait, il y a des bonnes idées dans la Kuna, mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles ce jeu, ce soir, il a tourné, c'est parce que tu as rajouté ce que j'ai décidé d'appeler les picaseries.
Les picaseries.
Pour lesquelles, d'ailleurs, il faudra faire un podcast, puisque tu as de très bonnes idées. Mais je pense que ce jeu de rôle, il a un gros souci. Il ne décrit jamais qui fait quoi, à tel point que le premier tour de jeu, on a été obligé de s'arrêter pour se déterminer qu'on ferait des tours de table, parce qu'on ne disait jamais qui fait quoi, à quel moment on fait ça, quelles sont les règles, quand est-ce que le maître de jeu, quand on réussit un jet de dés, qui dit qui fait son succès, qui décrit, rien n'est jamais dit.
Thomas.
Alors, si ça a été catégorique sur la table, c'est parce que il y a eu des indisciplines des joueurs. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de jouer ensemble et que généralement les gens s'auto-gèrent et que là, effectivement, ça s'est mal passé. Donc, il y a un moment, on s'est dit, bon, bah, on est beaucoup, faut se mettre un peu de discipline. Mais c'est comme ça dans tous les jeux. Après, moi, j'ai pas lu la base, donc je sais pas si le jeu, te dit, dans tel moment, faut faire telle chose.
Ouais, moi, c'est
donc, moi, j'irai pas jusque là, j'irai pas avancer jusque là. Parce que moi, j'ai en plus trouvé la partie très efficace. C'est-à-dire que pour moi, le jeu, il est fonctionnel.
Efficace une fois qu'on a mis en place des choses et grâce au petit truc de Pika. Enfin, moi, je me pose la question, est-ce que c'est marqué
en fait,
dans la base?
Jusqu'où
ou pas,
est-ce que les picaseries nous empêchent de voir le véritable jeu qu'on traite aujourd'hui en one shot?
En l'occurrence, moi, ça a certainement troublé ma vision. Parce que, alors, la picaserie, du nom Pika, hein, à l'occurrence, il a rajouté un timing au jeu qui m'a énormément convenu, que ça aussi, je vais le réutiliser par séquence de 25 minutes, si j'ai bien compris, qui correspondent donc à quoi? À un cycle de concentration? Dis donc, ouais, c'est plutôt efficace, ça permet de faire une pause de 3 minutes tous les 25 minutes. Donc c'est séquentiel et ça permet de de percevoir la fin d'un scénario, ça permet de se percevoir dans le temps quand il va se terminer, ça permet de souffler, de savoir qu'une séquence se termine bientôt. Aussi, ça passe vite, 25 minutes.
Ce qui est intéressant, c'est que ça collait aussi vachement bien à l'ambiance du jeu.
Ça collait au scénario.
De rêve en rêve, c'est saccadé, enfin en tout cas l'ambiance du scénario de la partie qu'on a jouée. C'est-à-dire que ta picazerie, là en l'occurrence, le fait de faire 25 minutes, alors je sais pas si tu fais ça à tous les jeux de rôle, Pika.
Alors le chrono, c'était une grande première.
D'accord, ok. Bon bah en tout cas ça fonctionne très bien pour la Kuna.
C'est limite un poil court, mais c'est bien.
Je pense que c'était mieux parce que je voulais qu'on soit efficace. Je voulais vous mettre le stress. Donc il fallait que ce soit trop court de toute façon.
D'accord. Ouais. Bobo.
Non mais pour la mécanique que tu voulais mettre en place, impeccable. Après pour revenir sur ce que tu disais, je pense que ça venait aussi donc.
Tu disais
Flavie de l'indiscipline au début, mais qui était aussi induite du fait que on est balancé dans le monde, on savait rien. Et du coup, on cherchait tous, on cherchait tous à avoir des infos.
J'ai pris une note. J'ai pris une note parce qu'à un moment, quand on fait un succès, on savait pas qui devait décrire, et donc on a posé la question. Et tu as bien dit, Pika, que c'était pas dit dans la base qui devait décrire.
Je cherche.
Et que du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui ont l'air vraiment d'être. Un petit peu à la décisionnaire.
Normal,
quoi.
Alors, fait 50 pages, tout n'est pas décrit. C'est à la table de se trouver sa petite marche au début. Je pense que, on aurait commencé le scénar sur un timing, sur le tout premier chapitre, un peu plus long pour qu'on trouve nos marques. Et après, enchaîner sur des cycles de 25 minutes pour le côté un peu stress, tu vois. Là, je pense qu'on aurait mieux géré le départ.
Mais voilà, par exemple, on voit que dans la base, ils disent, voilà, si vous faites un score inférieur à 11, l'action échoue. Point. Ils ne précisent pas qui décrit les conséquences de l'échec ou s'il y a des conséquences à décrire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cas de jeu de rôle traditionnel où le maître de jeu te pose une difficulté, te demande de faire un jet et c'est à toi de le faire et de réussir ou d'échouer.
Parce qu'effectivement, généralement dans les bases, quand ils ne décrivent pas, ils ne disent pas exactement c'est le MJ ou c'est le joueur, par défaut c'est le MJ qui décrit.
Tout à fait.
Voilà,
exactement.
Donc, là, c'est ce qu'on a fait.
Je crois qu'on a bien joué. Mais par contre, il y a toujours ce problème, Thomas, sur lequel tu n'avais pas l'air d'être d'accord tout à l'heure, mais qui fait que c'est finalement le MJ qui décide quand est-ce que tu perds tes BPM. Parce que c'est lui qui te demande quand est-ce que tu fais ton jeu ou pas. Alors, tu me diras oui, il y a toujours les joueurs autour pour dire quand c'est cohérent.
Moi, je pense que les joueurs ont leur libre arbitre, donc que le MJ m'impose tout, faut peut-être pas déconner.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même pas de moyen de contrôle à part la bonne foi de tous les joueurs autour de la table. Quand quelqu'un dit maintenant tu fais un jet, quand le MJ dit tu fais un jet, si, à moins que les joueurs se révoltent entre guillemets contre le MJ, disent non, je suis pas d'accord, parce que là c'est quand même cohérent, tu vois. Pika.
Alors. Je pense que le jeu, enfin même si il se positionne pas clairement, mais en fait le fait de pas se positionner, c'est une réponse déjà. Le jeu se présente comme étant, du point de vue du système, un jeu de rôle traditionnel. C'est pour ça que on n'explique pas qui décrit le succès, parce que c'est sous-entendu que c'est le MJ puisqu'on est dans un jeu de rôle traditionnel. J'insiste sur un point, c'est que le MJ, il est appelé comment dans le jeu ? Il est appelé contrôle.
Ouais.
Ah, ça donne quand même en plus ça place quand même le MJ le MJ, il est là pour contrôler quoi.
Tout à fait.
Et c'est pas mal parce que si on veut, c'est quoi un MJ ? C'est une interface de réalité virtuelle.
Oui, non, je suis
totalement. Et là qu'est-ce que c'est ? C'est pleinement ça.
Entièrement d'accord. Oui,
une interface de réalité virtuelle, ouais, j'aime bien.
Moi je trouve que dans la Kuna
il gère les conséquences de l'univers quand tu fais une action sur l'univers, c'est le MJ qui t'explique comment l'univers réagit quoi.
D'ailleurs, on a constaté pendant la partie Pika que t'avais beaucoup parlé sur cette partie. Si on prend ton temps de parole par rapport à celui de Bobo, de celui de Thomas, du mien, de celui de Flavie, de celui de Ben, c'est juste monstrueux.
C'est pas les présidentielles.
Non mais Bobo, tu veux dire quelque chose ? Prends le micro.
Ouais, c'est juste premier scénar, description du monde, ça prend forcément une grosse place.
Non mais même dans la narration et dans la partie, dans les descriptions et tout ça, c'est ça que je veux dire. En dehors de la description de l'univers, évidemment, ça je compte pas.
Ouais, mais moi honnêtement, j'ai pas trouvé la présence du MJ si écrasante.
Ah, c'est marrant, vous me répondez comme si je trouvais que c'était une critique. Que je formulais. Mais
c'est pas une critique, mais c'est souvent un point sur lequel tu reviens régulièrement.
Non, j'en reviens régulièrement, mais là justement, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça assez intéressant parce que je suis d'accord avec Pika sur l'analyse. C'est-à-dire qu'au final, le maître de jeu en tant que contrôle et en tant que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tant que vecteur de paranoïa, Ça fonctionne très bien.
Ça marche.
Ça marche très très bien. Maintenant, bon, sur le déclenchement des jets de dés, il y aurait peut-être, mais ça passe parce que c'est traditionnel. On est dans ce cadre-là et c'est très bien. Pika.
Donc, ce qui se passe quand tu lis la base, c'est qu'on est vraiment dans une ambiance espionnage. En fait, c'est grosso modo, c'est James Bond au pays des merveilles, hein, un petit peu. On est dans une ambiance d'espionnage, une ambiance d'action aussi. En plus, moi, j'avais vraiment Inception dans la tête, donc je voulais que ce soit de l'action et qui est cette, tout comme le suggère la base, cette ambiance de confusion totale, qui est bien gérée dans le système, dans le sens où il n'y a pas de système de round d'initiative dans le système.
Ça, c'est.
Et ça, c'est pour ça que vous êtes pris le bec en début de partie, parce qu'il n'y avait pas de tour de parole. Mais non, il n'y a pas de tour.
Il n'y a pas de tour.
Le système ne prévoit pas de gérer,
c'est
en fait, de gérer l'organisation des joueurs. C'est ce qui, je pense que c'est pas innocent. C'est fait justement pour créer ces prises de bec. Et ça tombe bien parce que quand il y a des prises de bec entre joueurs, généralement, il y en a aussi entre personnages. Et qu'est-ce qui se passe? On gagne des points d'interférence.
Thomas, tu t'es.
Moi, je reste toujours assez révolté sur le fait que ça me semble naturel que quand il y a beaucoup de gens, ça part vite en couille, donc il faut une certaine discipline. Donc maintenant, il est largement possible, effectivement.
Pour un joueur expérimenté.
Et dit, on le fait pas de façon à ce que, il y a un moment, il y a un mec qui dit, on arrête le bordel, c'est parti, chacun parle son tour. Et c'est peut-être, effectivement, avec le système de pierre, ça marche bien.
Ouais, mais, dans un, enfin, je dis pas par là que j'aime pas le jeu, hein, mais, dans un jeu bien fait, on se dit que peut-être il y aura un moment ou un autre à la table beaucoup de gens et donc on met en place quelque chose pour éviter qu'on se prenne
mais
la gueule.
T'as entendu ce que dit Pika?
Oui,
c'est-à-dire que
c'est
le but,
c'est fait pour.
C'est fait exprès. Ouais. Et moi je pense qu'il a raison.
Et en plus, le jeu parle énormément du rapport à la hiérarchie, à l'autorité. Et ce qui est quand même pas mal, c'est comment on a tranché ces problèmes.
C'est juste.
C'est que, on a imposé des tours de parole. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, c'est Flavie et Thomas, il me semble, qui ont insisté pour qu'ils se tournent de parole. Mais ça veut quand même dire aussi qu'à ce moment-là, il y a eu un conflit d'autorité, quoi. Et entre guillemets, Flavie et Thomas, ils sont posés pour, ils ont imposé, en fait, ces tours de parole, quoi.
Et Flavie et Thomas n'étaient pas n'importe qui dans le scénario, en plus.
Ouais, en plus, c'est
assez
marrant.
Leurs personnages avaient tous les deux des raisons d'être autoritaires. L'une parce qu'elle était, en fait, infiltrée, parmi nous.
Un agent du FBI.
Pour essayer de faire tomber la compagnie, alors que nous, on la soutenait. Donc, c'était un peu le félon, de l'équipe. Et Thomas, qui lui, par contre, est le commandant. Donc, il y avait évidemment, et là-dessus, bravo la synesthésie, c'est-à-dire qu'on est en plein dedans là. On a des joueurs qui se prennent le bec pour savoir comment on va parler, et en fait le jeu ne parle que de ça, que de personnages qui décident de faire des actions à droite à gauche et qui créent des interférences entre eux, etc., etc. Très très bien. D'ailleurs, on peut même se demander, il y a eu plusieurs moments où il y a eu des problèmes temporels, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui faisait une action et il en faisait trop par rapport au nombre d'actions que faisait l'autre joueur. Tu vois ce que je veux dire? En termes de temps, par exemple Mathieu, je prends le cas de Mathieu à un moment donné, qui se balade carrément entre les différents trucs, donc ton PNJ fétiche, il se balade pendant des heures, et nous on a on a eu le temps de dire merci à une dame qui cueillait des champignons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en termes de temps, dans le même espace de temps, nous on dit merci, lui il fait trois fois le tour de la pièce. Bizarre. Et justement, ça c'est pareil, ça fait partie du trip de l'interférence et tout ça. On peut même imaginer visuellement dans un film, ça tendrait que le personnage il va super vite alors que les autres ils font très lentement.
Maintenant que tu le dis comme ça, ouais. Mais lorsque la scène avait lieu, c'était plus la cacophonie ou le bordel timing de planification. Ouais. La planification.
Ah, est-ce que aussi le fait qu'on ait joué à de nombreux joueurs.
Non, mais peut-être que le nombre a fait, ouais. 6, moi je trouve que c'est beaucoup.
Je pense que Rome élève un sacré lièvre là. C'est que tu fais remarquer des incohérences, c'est-à-dire que pendant ce qui est perçu par tous comme un round, ouais. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de round dans le jeu, l'un arrive à faire effectivement, arrive à se balader dans toute la zone pour inspecter, tandis que les autres ont à peine le temps d'échanger un mot avec un PNJ.
Ouais.
Mais je tiens quand même à dire, après c'est peut-être moi en tant que MJ, mais je pense que c'est valable à toutes les tables et à tous les jeux, il y a assez souvent, surtout quand on a un système de round, eh bien, des petites incohérences comme ça, où le MJ, c'est quoi une action, quoi? Qu'est-ce que t'as le droit de faire en un round? Et si je dis à machin, parce que, en plus, tout ce qui est verbal, ça prend beaucoup de temps à gérer, alors que des mouvements, c'est très rapide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans un jeu de rôle, eh bien, souvent, il y a des incohérences temporelles.
Oui,
mais ça colle super bien avec l'univers. Parce que c'est quoi un rêve? C'est comme le jeu de rôle, c'est une réalité virtuelle imparfaite.
Distendue.
Et tendue d'incohérences.
Le jeu de rôle
et le rêve, là-dessus, on a ça en commun.
Ok, mais n'empêche que tu prends par exemple le système de Shadowrun. par exemple, est très clair sur les choses que tu peux faire en un tour, un demi-tour, enfin un round, un demi-round, un tour et demi, etc. Tout est maîtrisé, c'est-à-dire que tu peux rien faire. T'es dans le temps là-dessus, au niveau du combat, j'entends, hein, au niveau des conflits justement. Eh ben le temps est parfaitement maîtrisé, parfaitement contrôlé. Donc ça veut dire qu'on peut faire le choix d'un game design où le temps est contrôlé, où ce genre d'incohérences n'apparaissent pas.
Mais du coup, ton scénario, il fait pas deux heures.
Voilà. Par contre, voilà.
Alors, on aurait joué à Shadowrun, je pense qu'on aurait mis quatre fois plus de temps.
Mais
quoi.
Et en plus, tu dis pas les mêmes choses. C'est-à-dire que dans Shadowrun, c'est un jeu de technique, de spécificité, de compétences, de mecs froids, acérés, qui font une mission, qui s'y tiennent. Donc c'est cohérent, si tu veux, que le système soit rigoriste et réaliste au point d'être même chiant presque.
Voilà, ça pourrait être le cas aussi parce que tu incarnes des agents qui sont très, très rigoureux.
Mais justement, moi,
et qui n'ont pas à remettre l'autorité en question.
Sur lequel j'insisterai. Bobo. Pour dire, il manque beaucoup de règles pour cadrer certaines interactions. Je sais pas s'il est vendu. Ouais.
Le livre.
Donc, tu rajoutes toutes ces règles, tu doubles le papier et tu l'achètes, tu le vends pas le même prix, quoi.
Mais.
Faut pas oublier qu'il
mais,
faut.
Mais non, mais sont parfaites ces règles.
Non, tu non, mais voilà, c'est aussi pour.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
Mais c'est pour montrer qu'il y a aussi la problématique de si mon jeu, je veux le cadrer dans tous les sens, je rajoute des règles, je rajoute du texte. Et je le vends pas le même prix.
Ah mais là, je voulais parler de ce côté prix. Quoi. Mais non, mais là, en dehors de ça, le jeu, il est très bien game designé. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce qu'on attend de lui. Ce jeu attend que les joueurs se prennent la tête à cause de ça. Parce que justement, il y a des problèmes temporels, etc. Et il le fait très bien. Je pense que c'est ça, de l'interférence quand même. C'est quand même la forme que le jeu encourage les gens à se prendre la tête. C'est ça. Donc, non seulement il faut pas qu'il soit plus grand, mais moi je dis qu'il est parfait ce jeu. Il a exactement la bonne quantité de règles. Seulement, je suis d'accord. Je pense que c'est un jeu pour les joueurs expérimentés dans la mesure où il y a plein de règles qu'il ne dit pas parce qu'il sous-entend que tu connais le jeu traditionnel.
En tant que joueur sans... expérimenté, voilà, il y a les petites règles tacites de la table.
C'est normal. Ça, c'est normal. Voilà, je pense. Ben, tu voulais ajouter quelque chose?
Je sais pas si j'oserais dire qu'il est écrit, pensé pour semer la zizanie au sein du groupe.
Ah, j'en suis sûr.
Ah, c'est ambitieux à dire que l'auteur.
Tu peux pas dire ça, t'es un connard.
est-ce qu'on vise le point Godwin?
Non, on ne l'atteindra pas. Mais non, je sais.
Parce que j'ai pourtant dans l'idée que dans un jeu, la team doit être unie, en fait, pour atteindre un objectif commun.
Écoute. Mais je te réponds par un seul et unique argument. Si dans le système, il y a une forme de récompense qui est liée à la zizanie, alors tu peux être sûr que le jeu l'encourage. L'interférence. Pourquoi le mec qui a fait ce jeu s'est dit « je vais faire de l'interférence » c'est parce qu'il sait très, il veut qu'il y ait de la zizanie. Il veut que ça fasse partie de son jeu, qu'il y ait du bordel. C'est ça la vérité de ce jeu.
D'accord.
Tu vois l'idée? Et c'est pour ça qu'il rémunère les joueurs en interférence. Flavie voulait dire quelque chose.
J'ai entendu Thomas parler d'Inspectors tout à l'heure.
Ouais.
C'est le mec qui a fait Inspectors?
Oui.
C'est
effectivement le même auteur.
Parce que Inspectors, pour le coup, j'y ai joué et c'est aussi un jeu qui encourage les joueurs à se prendre la gueule.
À se prendre la gueule.
Ouais. Et Inspectors, c'était fun. Vraiment fun. Donc, si c'est le même auteur, on peut supposer qu'en effet, c'est ce qu'il pousse à faire. Hein.
Donc, on peut faire un dernier petit tour de table pour conclure les impressions globales, à moins qu'il y ait des choses à ajouter sur ce point. Mais je pense qu'on a déjà bien dégrossi le jeu. Bobo, qu'est-ce que t'en as pensé?
Je passe le bon de commande.
Toi, tu commandes le jeu direct.
Ouais, ouais. Peut-être pas pour faire des chroniques, mais pour des petits one-shots comme ça. Ouais, moi, je le trouve.
Qu'est-ce que t'as trouvé palpitant? Qu'est-ce qui fait que tu dis ouais, quoi?
Les règles bien calibrées pour se donner un petit peu de peps, un petit peu de stress sur.
C'est pulp à mort. Hein.
Ouais, c'est super.
C'est sympa. Ouais, c'est d'accord.
Après, c'est juste le truc qui m'ennuie un petit peu, c'est le côté ça se donne des ambitions de pouvoir mener des enquêtes avec un personnage qui peut mourir très vite. C'est un petit peu ce qui me frustrait aussi dans certains scénars de Cthulhu avec la San, tu crèves très vite et tu refais toujours les mêmes scénars où tu apprends toujours un petit peu du mythe mais pas les gros mystères.
Alors
a priori,
il
y a quand même
campagne,
la solution
voilà.
De la campagne et de sortir quand
le pot d'échappement, enfin,
quand t'es essoufflé. Quoi.
Pika, ce jeu, en tant que maître.
Moi, donc avant de commencer à jouer, j'avais un gros flip. C'était que là on partait sur des parties pris assez fort.
Ouais.
Déjà de 1 parce que je vous ai pas briefé sur l'univers mais du tout quoi. J'en ai vraiment dit minimum et en plus on partait sur un monde onirique donc je savais même si au final j'ai peut-être mieux fait passer la pilule en laissant les joueurs choisir les lieux et tout ça, mais je savais que j'allais vous imposer des choses illogiques. qui allait sans doute des choses illogiques, des choses d'apparence incohérentes, même si j'ai, pendant tout le scénar, j'ai essayé de retrouver une cohérence derrière tout ça. Et j'avais peur, en fait, que vous sentiez qu'on vous imposait un univers qui avait ni rime ni raison, et que de toute façon, en tant que vos personnages, n'avaient aucune façon d'influer en quoi que ce soit. Ça, j'avais vraiment peur de ça, parce qu'on peut avoir des réactions vraiment de rejet importantes quand on propose à des joueurs, en fait, des univers très barrés dont on leur donne pas les clés.
Ouais, mais là, Pika, t'as un avantage avec toi, c'est que le système, il est fait pour ça. T'as les battements de cœur et tout ça, il est super calibré pour ça, quoi. Tu vois bien que le jeu, le but, c'est de te foutre la merde et te faire stresser. Tout le monde est en stress, quoi.
Ouais, donc, du coup, c'est un cœur qui bat pour mettre en fond sonore.
Oh, tu plaisantes. tu veux nous tuer ou quoi?
Ah, ça aurait été bon, là, t'accélères le rythme.
Tout le long du jeu, faire en fond sonore doucement, un cœur qui bat.
Il y a une musique de Tomb Raider 2 que tu peux utiliser comme ça. D'ambiance track. Ben,
là, moi, les thèmes de la perdition, la folie, l'enfermement, j'aime bien. Surtout quand c'est une prison de l'esprit. Et bon, là, c'est ça aussi que ça me fait penser à un tableau dans un tableau. Pas vraiment de fin, pas de début. Tu sais plus quelle est la vraie réalité. Quelle est la réalité.
Et sur le système.
Sur le système, bah, donc je trouvais que j'ai voulu tester un.
J'ai l'impression que t'avais été un peu frustré, toi, par les BPM. T'es un peu non, le non, joueur qui.
Pas frustré, étonné que ça monte si vite. Surpris, j'avais pas envisagé ça.
Au bout de 30 minutes de scénar, t'étais déjà à 2/3 de ta jauge, toi.
Quelque chose comme ça, ouais. Je pensais que c'était un peu comme la San, que ça partait vite par moment, mais pas si vite dès le début.
C'était mon premier test, hein. J'étais autant surpris que vous, mais bon, c'était le but que je recherchais. C'était d'être autant surpris que vous par le jeu. Quoi.
Dans la mesure où je ratais les actions et que je voulais les retest, je m'enfonçais tout seul. Mais la punition était très très sévère. À chaque
le
fois,
fait de la crise cardiaque, mort imminente.
Bah, c'est beaucoup de points d'un coup qui peuvent être pris si tu pour un simple jet de dé. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, mais ça m'a plu. Le thème, t'es un agent. Ça me plaît aussi.
Moi, j'en ai encore le palpitant qui bat 200 à l'heure. C'était un. Alors que pourtant, j'ai pas beaucoup participé. Moi,
Je pense que c'est un jeu qui peut me donner des sensations comme les premiers Cthulhu où t'as peur pour ton personnage.
Ouais.
Alors que c'est un jeu où tu peux crever en 2-2.
Flavie, toi, t'as l'air d'être la plus sceptique parmi nous, je pense, sur ce jeu, au final.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes idées. Maintenant, je suis pas fan des cacophonies. Je suis pas fan des prises de gueule pendant les scénars. Donc même si c'est le but du jeu, je préfère la façon dont il l'a fait dans Inspectors où c'était vraiment, t'avais vraiment, c'était bien mené en fait. Tu pouvais pas rentrer vraiment en conflit en disant mais j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe là, on s'écoute pas. Moi j'aime bien quand il y a un peu d'écoute forcée par le système parce que quand on est nombreux ça part vite en live et je pense que c'est important. Ouais. Maintenant le jeu je le trouve bien fait, je trouve qu'il est bien pour ce qu'il veut amener.
Mais toi c'est pas ce qui te plaît le plus.
Non c'est pas ce qui me plaît et si je veux jouer à ce genre de jeu j'aurais un bon vieil Inspectors qui m'avait bien fait marrer, qui avait des systèmes de jeu qui étaient hyper drôles aussi.
D'accord. Bah, moi, vraiment, je suis totalement fou devant ce jeu. Enfin, Lacuna, ça fait partie là pour l'instant de mes grosses sensations en tant que joueur au niveau de. Alors, on utilise le mot pulp à péter à travers. On ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais je veux dire au niveau du rythme, au niveau de l'ambiance, au niveau de ça. Tac, ça pète. Bam, il y a un truc qui pète, mais tu te rends pas compte, ça explose à côté. T'essayes de fuir, mais en même temps, il y a l'autre qui est en train de soigner son pote. Toi, t'es en train de te battre, tu te sacrifies pour l'autre, mais en même temps. Et ça, je trouve ça génial. Et avec le rythme des BPM qui augmente.
Mais je crois que c'est le style de ce créateur de jeu.
C'est génial. Enfin, les règles sont vraiment bien pensées, vraiment bien faites. Maintenant, moi, il y a le seul truc qui me fait pêcher, c'est que malheureusement, comme la plupart des jeux traditionnels qui sont bons, ils oublient de dire ce qu'on fait pendant la partie et de préciser clairement le rôle de chaque joueur.
Il n'oublie pas, il le met.
Alors, il le met de le dire, mais il y a sur certains trucs, on voit que ça fait partie de son système de jeu et que c'est très bien. Sur d'autres, je sais pas, moi, je ressens un petit manque. Par exemple, sur les jets de dés, j'aurais bien voulu plus de précision sur quand on les fait. Bon, maintenant, c'est un détail. Hein. Franchement, par rapport au plaisir que procure le jeu, c'est top quoi. Thomas, ta conclusion sur
Lacuna. Dans Lacuna, moi j'ai beaucoup aimé le système de BPM.
Ouais, c'est génial.
Donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'aime beaucoup le trip administration, le fait qu'il doit avoir des cartes d'accréditation. Ouais. Donc ça, je trouve ça énorme. Et en plus, Lacuna, c'est de l'onirisme. Et les ça rêves, moi, c'est mon truc. Donc le jeu, il est vraiment pour moi. Il coûte, alors je crois que c'est 13 ou 15 euros. Je l'achète direct. Quoi. Moi, c'est un jeu, je pense que je vais jouer, rejouer.
Ah, tu penses que tu vas jouer?
Moi, je pense que je pourrais faire des tonnes et tonnes de scénars parce que bah, ça correspond totalement à, ce que, à mon univers.
Ah ouais, parce que moi, l'univers.
Moi, je trouve vraiment excellent.
L'univers me semble pas assez sexy pour m'attirer.
Moi, il me fait bander à mort, mec. Ah, là, depuis tout à l'heure, je commence à avoir la bite toute bleue. Hein.
Et finalement, est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle Lacuna?
La vie. Ouais. T'as une idée?
Appelle à l'auteur et lui demande pourquoi t'as mis ce nom.
Picard.
C'est inspiré d'une chanson de Devin Townsend, d'après l'auteur. Et c'est les Lacuna, c'est les vides dans la réalité.
On en a vu, hein.
Vous avez failli vous faire bouffer par un vortex, c'était ça, quoi.
Ouais, d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu où on est assis sur des pétards. C'est une ligne de pétards et que ça pète au fur et à mesure. Et que tu vois le pétard qui fait péter et tu cours et tu sautes de pétard en pétard et ça pète et ça n'arrête pas et c'est trop bon. Mais alors, par contre, je suis pas autant attiré que toi par l'univers, Tom.
Ça... Ah, moi, je trouve ça énorme. Ouais. Je trouve ça énorme parce que moi, j'ai eu plein d'idées de scénar, j'ai idée de faire plein de trucs et je suis sûr que ça marcherait.
Ouais.
Alors, moi, c'est un jeu, en tout cas, que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Je pense que j'achèterais et que bah, tu connais pas ce jeu-là, attends, on va faire une partie. Quoi.
Ouais, c'est... Ok. C'est la conclusion. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Au revoir à nos auditeurs.
Il faut l'acheter.
C'est vrai qu'il est pas cher. Le livre
moi,
est
je veux
bien
un
fait.
Podcast sur les picasseries.
Ouais, les picasseries.
Bon. Bonjour, je l'aime bien.
Alors surtout, bah, n'écoutez pas ce podcast si vous n'avez pas l'accréditation nécessaire.
Oui, ça c'est très important. En tout cas, il est beau. Hein. Moi, j'aime bien le design du jeu et fait vraiment penser à rétro-futur et tout. Je trouve ça vraiment pas mal. Allez, à bientôt tout le monde.
Salut.
Jouez bien. À bientôt. Salut.